France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. À une époque, sur France Culture, le samedi, donc 3 jours après la date de sortie des films en salle, le panorama, rendez-vous quotidien entre midi et 13h30, était consacré au cinéma, comme on s'en doute. Tous les films de la semaine n'étaient peut-être pas chroniqués et critiqués par l'équipe de Jacques Duchâteau, 3 ou 4 simplement. Ce samedi-là, le 1er mars 1997, il y avait au menu un film de Claude Berry et un film de Tim Burton.
Suite du panorama, bonjour ou rebonjour avec l'actualité du cinéma en compagnie de Lisandre Yes, Anne de Gasperi, Antoine Spire, Guy Konopnicki, Roger Dadoun et Yves Torval pour le Festival du cinéma international de l'Inde au Kerala. Lucie Aubrac, film de Claude Berry. Alors Claude Berry, on le sait, réalisateur de très très nombreux films. Le vieil
mineur.
Homme...
Hein? De très nombreux films mineurs comme Germinal.
Oui, enfin Le vieil homme...
Oui, Le mais vieil homme et l'enfant.
C'était pas mineur.
Le vieil homme et l'enfant est son seul bon film.
Oui, enfin, bon, peut-être pas. Bon, alors après, sur la guerre, pour rester les films qu'il a réalisés sur la guerre, il y a Uranus d'après Marcel Aimé. On en parlera tout à l'heure. Alors là, il est inutile de raconter l'histoire, puisque donc c'est la résistance et ce qui s'est produit entre Lucie Aubrac et Raymond Aubrac, l'évasion de Raymond Aubrac organisée par Lucie Aubrac, etc. On ne va pas raconter cette histoire, donc le scénario qui mêle
sinon, les deux évasions.
Je crois qu'il y en a eu trois, mais pas
en fait, dans l'évasion, on voit Raymond Aubrac qui est finalement relâché parce que Lucie Aubrac fait un chantage auprès du procureur. Oui. Et la deuxième est une évasion absolument spectaculaire dans le boulevard des Hirondelles, qui a inspiré beaucoup de films, et notamment le film de Melville, L'Armée des Ombres.
C'est ça.
Qui est autre chose.
Qui était un
formidable film.
Simone Signoret. Alors, donc, on va pas raconter l'ensemble du scénario. Les scènes d'action, il y en a beaucoup. Des interrogatoires musclés. Et puis, il y a aussi quand même des rencontres entre les résistants avec quelques considérations, pas suffisamment, dit-on. Ben, enfin, oui, on verra ça tout à l'heure.
Et Berry, c'est que Melville savait vraiment de quoi il parlait, outre le fait que Melville était un grand cinéaste.
Avant d'en débattre. Donc, je disais... Des scènes musclées, des scènes d'action, des scènes où les résistants se retrouvent et discutent bien du sens de leur action et notamment au moment de l'arrestation du général de Lestrin qui dirigeait l'armée secrète. On écoute l'une de ces scènes.
Je suis consterné par l'arrestation du général de Lestrin. Est-ce qu'il va supporter la détention, les interrogatoires? C'est un homme courageux mais il n'est pas jeune. Et puis son arrestation va faire ressurgir toutes les querelles pour s'accaparer le commandement de l'armée secrète. Vous vous rappelez les difficultés de l'an passé quand il a fallu faire la fusion entre les différents mouvements de la résistance? L'unification a été possible, mais uniquement grâce à de Lestrin, grâce à sa personnalité. Ce que je crains, c'est que la politique nous en mêle à nouveau. Or, les préoccupations de l'après-guerre n'ont rien à faire dans les combats d'aujourd'hui. Il faut rester unis jusqu'à la fin, jusqu'à la libération. Aubrac, je vous demande d'accepter la responsabilité de la zone nord. Hassan m'a donné son accord pour prendre en charge la zone sud. Ce sont des mesures provisoires, bien sûr, en attendant que De Gaulle ne désigne un nouveau commandement. Mais ça va supposer votre départ de Lyon. C'est une décision importante pour vous. J'imagine que vous la prendrez avec votre femme. Il faudra remonter à Paris avec toute votre famille. Un foyer normal, c'est encore la meilleure des couvertures.
Elle préférera m'accompagner, j'en suis sûr.
Parlons-en avec elle, tranquillement. Je vous invite à dîner tous les deux demain soir chez la mère Brasier.
Voilà, donc, l'une des scènes du film Lucie Aubrac, ce film qui est interprété par Carole Bouquet, par Daniel Auteuil et par Patrick Chéreau.
Patrice Chéreau.
Oui, Patrice Chéreau, pardon. Alors, Lucie Aubrac, donc, est au centre de cette affaire, puisque c'est son livre qui a servi de... Enfin, est-ce qu'on peut dire de modèle, etc.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, en partie, on peut dire que Berry s'est inspiré de son livre qui s'appelle « Il partir pour l'ivresse » et qui est publié aux éditions du Seuil. Lucie Aubrac était à Berlin pour le lancement du film, et c'est là où j'ai pu la rencontrer. J'ai eu l'impression, si vous voulez, que ses réticences avaient encore augmenté par rapport à l'époque où, il y a deux mois ou trois, on parlait de la sortie du film. Oui. Il y a deux ou trois mois, elle ne voulait pas que le film s'appelle Lucie Aubrac. Elle a obtenu de Berry un accord pour qu'il finance en partie les mouvements de résistance. Et en échange, elle a cédé sur le titre du film.
Ce qui est dit à la fin du film.
La fondation de la résistance financée par...
Non, c'est des mouvements de résistance, c'est pas la fondation.
Bon, enfin, c'est ce qui est écrit.
Ce qui est important, c'est que Lucie, par la suite... a eu de plus en plus de réserves et on a l'impression, quand on en parle avec elle, c'était l'impression que j'ai eu à Berlin, qu'elle est extrêmement réticente, mais bien sûr, dans la mesure où elle a signé un contrat, elle est engagée aussi par cette affaire.
On va l'écouter, Lucie Aubrac.
Le fait qu'on ait fait un portrait de Raymond en commençant par quelque chose de faux, à savoir un déraillage de train, c'est quand même inquiétant, non ?
C'est inquiétant, c'est pas le portrait de Raymond. C'est que pour l'ensemble des gens de la Résistance, et moi je passe mon temps à démythifier cette image, la Résistance, c'était pas une grenade dans chaque poche et une mitraillette cachée sous son manteau. La Résistance, c'était une réflexion dans la tête, ensuite un engagement conscient, et puis ouvrir son cœur, sa porte, et passer dans l'illégalité en acceptant de faire des choses qui sont contraires à la loi du moment, par exemple des faux papiers.
Lucie Aubrac, au départ, dans le projet de Claude Berry, il y avait été question que ce soit Juliette Binoche qui incarne Lucie Aubrac. Vous l'aviez rencontrée, elle vous avait posé beaucoup de questions, elle avait été intéressée par le rôle. Elle a renoncé, et dans la déclaration que je crois qu'elle a faite, elle a dit qu'il y avait quelque chose d'un peu trop sentimental et d'un peu trop faux dans ce film. Ces réticences ne vous ont pas alerté ?
Claude Berry nous a montré le scénario. On a beaucoup discuté du scénario. J'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer Juliette Binoche, qui est une fille intéressante, impulsive, et qui s'intégrait dans un rôle un peu à la Rambo, mais tout de même avec tellement de passion que c'en était très sympathique. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre Berry et elle qui a amené leur séparation.
Lucie Aubrac, film éducatif, c'est ce qui vous a quand même tenu d'accepter le projet de Berry. Vous vous êtes dit, peut-être que dans les lycées, ce film pourra servir à parler de la résistance, à être le point de départ d'une réflexion des enseignants et permettre aux jeunes, au fond, de comprendre ce qu'était vraiment la résistance, c'est-à-dire ce à quoi vous tenez, ce mélange de vie privée et de refus des lâchetés, de refus de la soumission.
Moi, je pense que ce film, plus que chez les jeunes dans les collèges et les lycées, il aura une influence sur l'opinion française, qui comprendra qu'à un moment, on ne peut pas rester neutre, et qu'après tout, ce n'est pas tellement difficile d'être dans une société où on peut continuer de coucher dans le même lit que sa femme ou son mari, d'exercer son métier, et puis ensuite d'être des copains qui s'engagent dans une aventure qui finit bien. Parce que finalement, ce film, c'est un film d'espoir, c'est un avion qui s'envole.
Vous m'avez dit que Claude Berry, vous avez montré le scénario. Ça signifie qu'il y a des répliques que vous avez pu discuter, il y a des répliques quand même qui tombent assez mal, enfin il me semble, qui tournent faux. Vous avez discuté pied à pied avec lui ou bien c'était à prendre ou à laisser ?
On a beaucoup discuté. C'est un homme têtu, c'est un homme qui connaît son métier, mais sur tout ce qui concernait la résistance, il a pris notre avis. Et par exemple, le cours. Moi, j'aurais aimé que ce cours d'histoire se fasse avec des élèves plus grands. Mais tout de même, là, il fait bien passer le message qu'on faisait passer auprès des jeunes sous l'occupation. Alors, il y a des petites choses. Par exemple, elle dit « mon colonel ». Mais c'est pas très grave. Une femme n'a jamais dit « mon colonel » à un officier, ni « mon général ». Une femme dit le titre et puis c'est tout. Mais on pouvait pas changer parce que le film était fini. Mais On a beaucoup discuté le scénario et dans l'ensemble, il a respecté les remarques que nous lui avons faites. Il s'est beaucoup appliqué, vous savez. Je crois que cet homme est un type sensible, très humain, et que pour lui, c'était très important de montrer qu'il avait compris ce que c'était que cette période, surtout après cette horrible chose qu'avait été Uranus.
Voilà, donc c'était Lucie Aubrac à propos du film de Claude Berri. La presse, j'ai relevé 12 critiques, 9 plus ou moins partagées et 3 contre. La Croix trouve que c'est un spectacle familial. Le Monde, Claude Berri préfère l'anecdote à l'histoire. Les Échos, la grande évasion et son illustration académique. Alors académique, ça revient à l'humanité, sa patine académique. Télérama, qui est plutôt pour, trouve quand même que le film frôle l'académisme. L'événement du jeudi, pas de véritable analyse du contexte historique, au demeurant efficace et souvent émouvant, donc plutôt pour. Figaroscope, pourquoi une simple histoire d'amour? Le Figaro, une histoire d'amour bien contée. Le Canard, les temps faibles ne font pas oublier les temps forts. Alors, complètement contre, l'Express, petit film raté, Libération, l'authenticité des boutons de guêtre au détriment du style, un gros téléfilm survitaminé. Et enfin, Les Inrecuptibles, les bons à gauche, les mauvais à droite et la caméra au centre.
Très bien, c'est aussi, mais la réflexion, moi je pense que la réflexion de Libé est la bonne, c'est-à-dire que c'est du bon cinéma français, du bon petit cinéma français en costume, ce que Truffaut appelait la qualité France, et effectivement ça n'est pas le dernier métro, ça n'est pas l'armée des ombres, c'est attention au bouton de guêtre et à la qualité des uniformes de Klaus Barbie, et puis rien ne passe quand même. Ouais. Rien ne passe,
vous trouvez pas d'émotion.
C'est plus compliqué que ça, parce que quand on lit le livre, ils sont partis dans l'ivresse, qui est évidemment infiniment supérieure au film. Et d'ailleurs, l'interview qu'on vient d'entendre de Lucie Aubrac montre que c'est une femme formidable.
Oui, 84 ans.
Oui, donc il faut absolument lire le livre. Il faut rappeler aussi d'ailleurs que le livre a été publié en 1983, au moment du procès de Klaus Barbie. Oui. Et pour cette raison-là, donc il y a un décalage, malheureusement, qu'on ne peut que remarquer. Et qui, à mon avis, tient au fait que Claude Berri n'arrive pas en effet à placer l'action dans le contexte historique. L'extrait qu'on a entendu est le seul à peu près du film parle des problèmes d'incohérence entre les, enfin d'unité difficile entre
et de
les
rivalité,
de résistance. C'est absolument le seul. Et à mon avis, il y a un autre problème qui est un problème de distribution, parce que Daniel Auteuil et Carole Bouquet font peut-être venir du monde dans les salles de cinéma, c'est sûr, mais ce sont des acteurs tellement connus qu'ils sont gênants dans les rôles qu'on leur a attribués, à mon avis, ne sont pas extrêmement bons. Mmh. En particulier, Daniel Auteuil, alors, est-ce que ça tient à l'acteur? Est-ce que ça tient à la place que joue le personnage dans le film? On ne comprend pas que cet homme, qui a finalement peu d'épaisseur psychologique dans le film par rapport à sa femme qui est l'héroïne, on ne comprend pas que ce soit lui que Jean Moulin confie la responsabilité de l'armée secrète dans la zone nord.
C'est pas ce qui est plus gênant, parce que le film est sur elle et pas sur lui. Moi, je trouve qu'Auteuil s'en tire assez bien.
Moyennement. Et elle, on la voit beaucoup mieux en empoisonneuse. Elle, on la voit beaucoup mieux. Quand elle met du poison dans le petit pot de confiture pour celui qui a trahi. Ça, c'est une bonne scène. Mais on la voit beaucoup mieux comme ça que comme une femme amoureuse et courageuse.
Il me semble que par-delà les acteurs, il y a au fond l'idée de la reconstitution de la résistance qui pose problème. Le film commence avec un attentat contre un train. Il faut savoir que Aubrac n'a jamais commis aucun attentat.
Ça, c'est pas.
Non, c'est le côté mythe. C'est-à-dire qu'on vient de nous dire que ce qui est essentiel...
Il y a des choses de ce genre dans l'armée
c'est la vie. Et ça passe pourtant. Attendez, ce qui est essentiel, c'est la vie courante. Et là, on touche d'abord au mythe. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a plein de choses qui sonnent faux. Et je trouve, par exemple, la question de Barbie... caressant entre les jambes la grisette qui déjà est en train de manger une pomme. Elle croque une pomme, ça suffit, on a bien compris. Il est en train de torturer, Barbie est en train de torturer, elle croque une pomme, c'est bien, ça va. Mais en plus, parce qu'on en fait beaucoup quand on s'appelle Berry, on met la main de Barbie entre les jambes de la fille. Donc ça, c'est exagéré, c'est insupportable. Ensuite, maintenant, il y a des problèmes de fond qui sont posés par ce film, c'est qu'on ne croit pas à beaucoup de moments au film lui-même. Un peu comme si on avait, Berry avait voulu faire ce film avec des acteurs pour en faire une grande production qui réussisse, mais finalement, on n'avait pas cru lui-même à cette histoire. C'est-à-dire que cette histoire, qui est une histoire vraie, racontée par Lucie Aubrac de façon remarquable dans son livre, devient non crédible au cinéma. Et ça, je trouve ça vraiment tout à fait dramatique.
Bon, moi, je ne suis pas du tout d'accord, encore que la scène que vient d'évoquer Antoine, je suis absolument...
La scène de l'interrogatoire.
Ah oui, elle est insupportable, elle est gênante, elle est déplacée. Et, elle, et en effet, elle révèle chez Claude Berry, tu me laisses aller parce que sinon je ne
peux pas.
Bon, c'est d'autant plus gênant que ça montre assez bien que Claude Berry, en effet, a du mal à situer ses personnages dans l'histoire. Ça, c'est vrai. Il est pas loin de déraper chaque fois. Et là, il dérape carrément. Mais, où je ne vous rejoins pas du tout les uns et les autres, c'est que ce film, et c'est très gentil de se faire plaisir et de penser à nous, c'est ce que nous faisons, à nos générations, à ces problèmes qui sont toujours là très présents, mais il y a une chose que je trouve que vous ne voyez pas, c'est qu'il n'y a plus aucun film qui soit des leçons de courage, et ce film, pour les générations que la guerre enquiquine, qui ne sont pas encore avertis à une seconde. Absolument, absolument, je suis d'accord, mais néanmoins, l'exemple de Lucie Aubrac jouée par une Carole Bouquet, et je ne vous rejoins pas, qui est absolument remarquable parce que elle est dans la dévotion de cette femme, elle se donne complètement, on y croit, le plan émotionnel marche, je regrette, moi j'y suis allée avec des jeunes, je suis désolée, ça marche, et ils sont absolument subjugués par ces... Alors vous dites elle est connue, mais pas pour les 13 ans, 14 ans, et c'est pour eux que ce film est important, parce qu'il n'y a pas tellement de films qui donnent des leçons.
Écoutez, de courage. Bon, alors
je trouve quand même que le principal personnage de la résistance.
D'accord, je ne parlais pas de Moulin.
Attendez, je voulais vous dire quelque chose. Parce que Lucie Aubrac, elle rencontre Moulin. Et Moulin, ce n'est pas parce qu'on lui met une écharpe blanche et un chapeau qu'on réussit Moulin. Ce qui est dramatique, c'est que Chéreau. Non, écoutez, Chéreau, parce qu'il est mal dirigé par Berry, n'arrive pas à dire quelque chose qui est crédible.
On sent que Berry est obsédé par la photo.
Moulin dit on ne fait pas de politique.
Ça, on a compris.
Alors là, c'est le contresens total. Le contresens total.
Il a regardé la version de Moulin.
La version de la trahison de Caluire est d'une grossièreté. Insupportable.
Parce qu'on insiste de façon lourdement.
Je voudrais quand même dire des choses positives sur le film. Parce que
alors, une chose d'abord.
Bon, c'est vrai qu'il a tous les défauts qu'on a soulignés. Bon, je voudrais quand même dire que l'aspect sentimental, il est important parce que c'est vrai que c'est à la fois une grande histoire d'amour et dans le livre.
Et de courage. D'amour et de courage,
bien évidemment. Et cet aspect-là, ça n'est pas quelque chose d'inventé dans le film, c'est dans le livre.
Mais le problème, c'est.
C'est pas parce que c'est dans le livre, voyons. Non, on a le droit de faire une adaptation cinématographique.
Deuxième point que je trouve important et qui n'est pas raté, ça je suis tout à fait d'accord, et qui peut en effet être une leçon historique extrêmement utile, c'est le rôle de la police française. Et il y a par exemple une scène où Barbie dit cette affaire, c'est quand au moment de la première arrestation, quand Raymond Aubrac est considéré comme trafiquant au marché noir, donc on n'a pas encore vraiment... Enfin, Barbie se doute des liens avec la résistance, mais il n'en est pas certain. Et il dit, cette affaire va être confiée à la police française. Et on voit un policier en uniforme de la police française qui sort avec ses prisonniers en claquant des talons à l'allemande. Oui. Ça, c'est quand même une image extrêmement importante. Oui. Donc, il y a des choses de ce genre qui n'ont pas été ratées par Berry. De même, on voit le départ de Juifs pour la déportation avec une jeune femme avec un bébé qui se fait pousser.
Antoine,
la caresse entre les jambes de la...
Oui, d'accord, on l'a dit. Antoine.
Ces images-là extrêmement
importantes. Je ne suis pas d'accord avec Lise, parce que je pense que ce qui est le plus grave dans ce contexte, c'est qu'on a presque l'impression que le contexte de la résistance, le contexte de ce moment de 1943, c'est un moment où il y aurait d'un côté les bons et d'un côté les mauvais.
Oui.
Et par exemple...
Non, c'est pas aussi simple.
Je suis tout à fait triste, si vous voulez, qu'il n'ait rien dit sur le réseau Libération. Les Aubrac sont les fondateurs du réseau Libération. Il y avait des contradictions entre les réseaux, mais plus encore...
Le réseau Libération, c'était d'Astier, qui n'est pas cité.
Le nom d'Astier de la Vigerie n'est pas prononcé.
Et c'était un réseau d'inspiration communiste.
D'inspiration communiste, mais disons proche.
Enfin, quand même.
Combat. Le réseau Combat, dirigé par Freinet. Le réseau Franc-Tireur, qui lui était d'inspiration plutôt communiste. Ces trois réseaux qui existaient, Franc-Tireur, Combat et Libération... ont composé la résistance. Et Moulin a eu toute la peine du monde à l'unifier.
Même le général de l'Estrin... Si vous le dites, il faut préciser que Combat était pour la résistance intérieure et contre, justement, la résistance extérieure. Il y a eu des conflits très violents entre Freinet et
Deligny. Vous rappelez d'ailleurs que Lucie Aubrac et Raymond Aubrac avaient leur visa pour partir aux États-Unis en 1940, au départ, et qu'ils ont refusé de partir aux États-Unis pour combattre en France.
Mais ça, on ne lui demande pas de raconter toute l'histoire.
Non, absolument pas.
Je le rappelle quand même pour...
Mais justement, à ce moment-là, en 1943, la grande question, c'est de savoir si c'est possible d'unifier ces trois réseaux sous la direction de Moulin, qui est le représentant du général de Gaulle. De Lestrin vient de mourir, et en fait, il y a des tirages terribles. Je trouve tout à fait dommage qu'on ne dise pas un mot de ça. C'est-à-dire qu'on, vous voyez qu'on présente les choses de façon simplifiée, caricaturale. Par exemple, il y a cette dame au chemisier rouge, vous l'avez vu, qui est tout le temps derrière, qui est tout le temps derrière les Aubrac, enfin, derrière tous les gens qui vont à la réunion de Caluire. Cette dame, qui est donc un agent double, essaye à un moment donné de prévenir les Aubrac, mais de prévenir les résistants de ce qui va se passer à Caluire dans la maison de Dugoujon. En fait, on ne comprend pas. Ceux qui ne savent pas l'existence de cette dame risquent de voir le film sans comprendre. Et elle est juste là pour, comme une référence.
Mais enfin, c'est pas le film que Berry a voulu faire. Il n'a pas voulu faire un film politique.
Il a fait un film qui dit que l'amour et la guerre, ce n'est pas incompatible et qu'on peut bien se tenir dans la guerre en aimant l'homme de sa vie. Et je trouve encore une fois qu'à ce titre-là, l'histoire de Lucie Aubrac, je suis d'accord, est exemplaire, mais il n'est pas interdit d'en faire le film que Claude Berry en a fait. Ce film a beaucoup de défauts, mais pas à ce niveau-là.
Bien, on va en rester là donc pour ce film.
Il reste quand même toute la polémique.
Alors attendez. Le livre de Lucie Aubrac, c'est Ils partiront dans l'ivresse aux éditions du Seuil. Alors des livres, il va y en avoir d'autres. C'est pour ça que l'on aura l'occasion de reparler de cette affaire, puisqu'il y a un livre de Gérard Chauvy, dont des extraits ont paru dans Historia, qui met en doute les témoignages de Lucie Aubrac et de Raymond Aubrac.
Chauvy pose trois questions. Et il ressort de la lecture d'Historia, de ces trois questions, en fait, qu'il essaye de dire qu'il y a du flou sur les dates, qu'il y a du flou sur l'arrestation et l'identification d'Aubrac à Caluire, qu'il y a du flou sur l'organisation du coup monté du boulevard des Hirondelles. Il dit que le boulevard des Hirondelles, donc l'enlèvement d'Aubrac, avait pour objectif de libérer Jean Biche, qui n'était pas là. Alors, et pour autant, à mon avis, il n'apprend rien de nouveau. Mais je trouve que ces nuages qui sont répandus par ce Chauvy et par d'autres sur l'affaire Aubrac a pour objectif d'essayer d'une manière ou d'une autre de mettre un doute, d'instiller doute dans l'esprit de ceux qui croiraient que c'est la résistance qui est du bon côté.
Nous en parlerons quand le livre de Gérard Chauvy, qui devait paraître ces jours-ci, mais dont la publication a été retardée par Albin Michel,
qui
est prévu pour avril, et nous en parlerons donc à ce moment-là. Ça sera tout pour Lucie Aubrac, donc le film de Claude de Berry. Et tout de suite, Mars attaque. Musique de Mars attaque, film de Tim Burton. Alors Tim Burton, il faut le rappeler, enfin on le sait, c'est Batman le défi, des énormes succès. C'est le film qu'elle avait réalisé sur Ed Wood, c'est bien ça, le fameux réalisateur américain qui faisait des films en 3 jours et encore quelquefois en 1 jour et demi. Et il y avait comme exemple le fameux film de science-fiction sur des soucoupes volantes, et les soucoupes volantes étaient tout simplement des moules à tartre. Et on peut dire que d'une certaine manière c'est l'envers de Hood, parce que là il y a des moyens considérables, donc c'est des soucoupes volantes et des vraies soucoupes volantes, des vraies soucoupes volantes qui apparaissent un jour dans le ciel américain. Alors le président des États-Unis, Jack Nicholson, qui est très bien, il en fait juste un tout petit peu trop, mais juste ce qu'il faut pour en faire
c'est le principe même du film d'ailleurs, juste un peu trop quelquefois,
pour en faire assez,
trop quand même,
mais ça rejoint tous les autres.
En pareille circonstance, le vrai président des États-Unis en fera encore plus.
Alors donc, le président des États-Unis réagit en réunissant ses généraux et ses conseillers pour savoir quelle attitude adopter vis-à-vis des Martiens. Il y a les vautours qui veulent sortir l'arsenal nucléaire qui est en train de se rouiller, et puis il y a les colombes qui estiment qu'une civilisation parvenue à un tel degré d'évolution technologique ne peut vouloir que la paix. De fait, le premier message reçu des Martiens est un message de paix. Alors, bien sûr, les choses ne seront pas aussi simples et l'on ira de surprise en surprise. Je ne vous dirai pas lesquelles, évidemment. Afin de mieux passer à la moulinette toute la civilisation américaine qui en prend un sérieux coup. Alors, la presse, bon, bah, y a encore une douzaine de critiques, tous pour l'Express, Mars, tendance Groucho, La Croix, l'anti-indépendance des kitsch à souhait, Nouvel Observateur du kitsch génial, Les Échos insolemment kitsch, Positif avec un gros dossier, le surdoué Batman Burton, nous montre que l'Amérique qui croit avoir une dimension planétaire n'est qu'un village. Ça me paraît assez juste. L'Amérique vit comme un village, parce que le moment de la réception des Martiens, c'est vraiment la fête au village.
Avec le tapis rouge qui est déroulé à l'arrivée
Alors, le monde un petit peu plus partagé, une parodie de science-fiction et de bande dessinée, esthétique et design désuet des années 70. C'est savamment proportionné, mais quand même, on reste un petit peu sur sa fin. C'est aussi ce que dit Télérama, drôle, mais reste un petit peu sur sa fin. Le Figaro pour rire impitoyable. Rire impitoyable et communicatif.
Caviar, on peut rester sur sa fin.
Ça ne vaut pas
Libération, drôle et cruelle, le Burton décroche la lune. Enfin, le plus réservé, c'est peut-être le Canard Enchaîné qui dit tantôt des gags faciles, tantôt du grand cinéma.
Il est vrai que le Canard Enchaîné a des gags tellement subtils quelquefois qu'il ne peut être qu'exaspéré par ses gros gags. C'est bienvenu du Canard Enchaîné de sortir un truc pareil.
Vous êtes pour le Canard
Enchaîné. J'attaque le Canard Enchaîné, parce que question cinéma, il se gourre.
Le côté phare, c'est pas gênant. Une fois qu'on l'a admis, on sait qu'on est dans une phare. On regarde une phare.
Bon, alors, Roger.
D'abord, ça prend le type même de film de science-fiction qui était le film mettant en scène Mars et les Martiens. Oui. Depuis La Guerre des Mondes de Wells et bien d'autres réalisations de ce genre. Donc, il prend un prototype. Et il en fait la caricature, mais non seulement la caricature et la parodie, comme cela a été dit, et d'une manière qui est tout de même réjouissante. Oui. Et le résultat est là, le public se marre, et se marre royalement. Mais en même temps, il y a une subversion politique, parce que la présidence des États-Unis, l'armée, la collaboration des gens, les manières de faire, tout le côté diplomatique, les perspectives même idéologiques, sont incluses dans le film.
Absolument. Que se passerait-il si les États-Unis étaient envahis, occupés, eux qui donnent des leçons à la Terre entière. Et là, la caricature, bien sûr que c'est une farce, bien sûr que c'est énorme, mais ça prend, ça marche, et à partir des ingrédients de la réalité, de la structure du pouvoir aux États-Unis, de la mentalité de la population, de l'idéologie américaine, tout est dedans.
Et puis, quelle belle histoire d'amour, puisque vous avez évoqué. Être amoureux d'une femme chienne, c'est peut-être un des fantasmes les plus riches de tout mal.
Quelle horreur.
Surtout lorsque ce mal en question est morcelé en
dégradé.
Et que finalement, on arrive à l'amour peut-être le plus sublime qu'on puisse imaginer, puisque ce sont deux têtes.
Cela
étant, film de dérision sur l'arrivée des Martiens, ça s'était déjà vu. Il y a quand même un roman et un film français dont la farce s'appelle La Soupe aux Choux. Il y a au fond cet esprit-là, sauf que c'est-à-dire les Martiens ne sont pas du tout ce qu'on croit. C'est pas du tout les petits hommes verts qu'on imagine. C'est complètement autre chose et on va le découvrir au fur et à mesure.
Je vais vous dire, moi, ce qui me charme, c'est votre âme de petit garçon qui se réveille là, chez les hommes qui sont.
Vous n'êtes pas une petite fille.
Attendez. Non, mais ça me charme.
Enfin,
Je le dis, c'est vous qui me charmez. Mais pas le film. Pas le film. Parce que j'ai eu l'impression d'avoir tout déjà vu. Mais tout. Tout.
Même
dans
E.T.,
dans tous les. Enfin, on a tout vu.
On a toujours
et
tout
alors,
vu.
Alors, comme c'est une. Ce monsieur a pour moi un très grand. Tim Burton a un très grand avenir dans la BD. C'est un film au laser qui se sert de tous les clichés. Moi, j'ai tout vu. Il n'y a qu'une surprise pour moi, ça a été.
la fin, le motif, il ne faut pas le révéler, qui permet d'arriver à bout des Messias. Oui.
C'est le seul gag du film.
Enfin, on arrive à une surprise, une vraie. Tout le reste, on l'a vu dans La guerre aux étoiles. Tout le reste, on l'a vu.
La guerre des étoiles.
Oui, on a tout vu. Les petits martiens sont dessinés. Les petits martiens sont dessinés sur le modèle d'IT quand même, malgré tout, BD. La matière verte qui est dégoulinante, on l'a vu partout. On a tout vu tout le temps partout.
Mais la qualité d'un réalisateur,
moi, je trouve que c'est la première dame des États-Unis qui est très drôle. Ça, c'est vrai. Là, il y a une vraie caricature.
Comment? Vous l'avez pas déjà vu?
Si, mais, ah bon, mais, alors, mais cette fois-ci, quand même. Mais oui, parce que cette fois-ci, elle crève l'écran, tandis que le reste moi, est parfaitement bon, ennuyeux.
Le principe Roger, même d'un artiste, c'est que il nous montre quelque chose que nous avons tous vu, et cette fois-ci, on le voit différemment.
Ce qui est stupéfiant avec ce film, c'est que
on s'habitue tellement à ces gracieux martiens, particulièrement cruels et sadiques, qu'on finit par les trouver plus humains que les humains eux-mêmes.
C'est
ce que vous appellerez peut-être
une... On ne peut pas réduire Tim Burton aux effets spéciaux qu'il manie admirablement. Il est capable d'inventer complètement, et si là, il ne le fait pas et qu'il se sert des clichés qu'on a déjà vus dans le cinéma science-fiction, c'est qu'il y a une raison.
C'est une grande... C'est une grande leçon de courage politique.
Mais
pas du tout.
À l'époque du politiquement correct, voilà du politiquement incorrect.
C'est un jeu vidéo que vous trouvez intelligent, mais je veux bien pas.
Mais les jeux vidéo sont souvent très intelligents.
Oui, mais là, je trouve...
Vous devriez jouer à des jeux vidéo.
Je joue.
Mars attaque.
Je comprends que ce soit pas
Mars attaque de Tim Burton. Surprendre après ce que nous avons dit de Mars Attack, mais ce que vous écoutiez et ce que vous écoutez peut-être encore, c'est fait partie de la bande sonore du film Mars Attack.
C'est même son secret.
Alors, on va changer de genre avec le comment et le pourquoi de Ventura Pons, film donc catalan, d'après Quim Monzó, qui est un auteur catalan très connu. Le pourquoi des choses est paru chez Jacqueline Chambon en 95, c'est-à-dire il y a 2 ans. Et c'est de ces nouvelles que Ventura Pons s'est inspiré pour tourner 15 sketchs. Le premier, c'est Volonté, c'est très bien, c'est l'histoire d'un homme qui veut obliger une pierre à parler, et il finira d'ailleurs par y arriver. Alors après, il y a toutes sortes de sketchs, et le premier et le dernier sont peut-être les deux meilleurs, parce que le dernier, c'est très bien, c'est l'histoire d'un homme qui veut cueillir des champignons, et il ramasse un champignon, un amanite, et il fait apparaître un gnome, et ce dernier lui donne 5 minutes pour faire un vœu. Et pour se donner le temps, l'homme demande à un autre gnome, et ainsi de suite. Oui. Et l'histoire, comme ça...
Tout à fait d'accord.
Le ton du film, c'est l'absurdité, en fin de compte.
C'est l'absurdité. Question de communication aussi, parce que cet homme...
Oui, il y a beaucoup de choses au téléphone, beaucoup de séquences au téléphone.
Moi, je suis d'accord avec vous, la première scénette et la dernière sont, à mon avis, les plus réussies. Mais la première donne le ton du film, parce que c'est quand même un homme qui dit lui-même, c'est très drôle, parce que c'est en même temps très pompeux, qui dit lui-même qu'il faut absolument développer la communication entre le monde humain et le monde minéral. Et alors, la suite, il s'agit de choses un peu plus banal, parce qu'il s'agit essentiellement des problèmes de compréhension et de communication entre les hommes et les femmes. Quelquefois ça marche bien, quelquefois c'est un peu lourd. Il y a un sketch que je trouve très bien, c'est celui qui s'appelle Ego. Et d'ailleurs, c'est l'écriture du film, si on peut l'appeler comme ça, c'est comme l'écriture des nouvelles. Parce qu'il y a toujours une chute à la fin de la scénette. Il y a au départ un acteur ou les acteurs de la scénette qui se présentent comme devant un rideau et qui annoncent le titre de chacune des histoires. Alors, Ego, c'est pas mal non plus, parce que c'est un homme et une femme dans une voiture le soir, et la femme reproche à l'homme de ne parler que de lui-même. Alors, il sort de la voiture absolument hors de lui et il dit, mais il fallait me le dire tout de suite, mais c'est vrai, je ne parle que de moi. Et pendant 5 minutes, on a un discours où ce personnage dit qu'il ne parle que de lui-même, que c'est affreux, qu'il le sait bien, et il continue à ne faire que la même chose.
La presse parle de Pedro Almodovar. Vous êtes d'accord?
Oui, parce qu'il y a ce côté de sexualité crue, affirmée comme une sorte de défoulement après la grande époque du puritanisme franquiste. Mais les deux nouvelles que vous avez indiquées, les deux sketchs, et même peut-être moins que des sketchs, des clips, quelquefois tellement c'est rapide puisqu'il y en a 15, sont les deux où l'auteur dérive un peu vers quelque chose de fantastique. Tandis que la dominante tout de même, c'est le cas de l'ego, c'est la crudité couple et de la sexualité. Il y a une scène étonnante qui s'appelle Jalousie, où alors la femme est en train de sucer le sexe de l'homme en disant... alors, elle le dit en catalan, c'est très joli en catalan, Murta Sigala, ça veut dire j'adore ta bite. Oui. Mais elle ne répète que ça. Alors, l'homme évidemment est enchanté, mais la répétition, curieusement, commence à le lasser à la fin.
Il dit, et moi,
que fou.
Il dit, et moi,
qu'est-ce que je deviens là-dedans?
Ça, c'est assez drôle.
Ça, c'est le côté alors sardonique film, avec le cas, par exemple, quasiment clinique, alors. Pas clinique, j'exagère. Le cas de la femme soumission, qui dit, moi, j'aime bien le type qui vient et qui me domine, qui me frappe même. J'aime bien les coups de compte fait. Mais elle le dit avec une sorte d'onctuosité, de suavité, qui fait qu'on a envie de s'y mettre.
Oui, mais en plus, non, mais Roger Dadoun, il faut dire aussi que cette scène-là se passe dans un salon de thé, devant des petits gâteaux en forme de cœur, en sucre rose. Donc, il y a quand même des choses assez réussies, je trouve.
Mais je trouve que presque tout est réussi, justement, dans ce film.
Oui, enfin, oui, assez. Et alors, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les scénettes qui portaient des noms de choses vertueuses ou positives, amour, sincérité, se retournaient toujours contre les personnages qui les incarnaient. Il y a un côté immoral, réjouissant et un peu libertin.
Et démystificateur de toute une série de positions amoureuses.
Le comment et le pourquoi de Ventura pense d'après les nouvelles de Kim Monzo qui ont paru il y a 18 mois. Sous le titre Le pourquoi des choses aux éditions Jacqueline Chambon. Le 28e Festival international du film de l'Inde qui, donc, tous les deux ans, se tient dans une ville différente, New Delhi ou Bombay. Donc, et là, c'est au Kerala. Le Kerala, c'est un état du sud de l'Inde, un état tout à fait assez différent. Enfin, il y a le règne des partis communistes, parce qu'il y en a deux. Il y en a un qui est maoïste et l'autre qui ne l'est pas. Il y a une alternance, mais l'alternance se produit entre ces deux partis communistes. C'est ça, hein?
Oui, enfin, il y a eu quelques... Le Congrès a réussi à reprendre pied de temps en temps, mais c'est vrai que c'était depuis 57. C'est d'ailleurs quasiment le premier État où le communisme est arrivé par la voie des urnes en toute légalité. Et ça donne une touche particulière au Kerala, qui est l'État le plus éduqué. 95% de la population est alphabétisée, ce qui n'est plus le cas dans l'Inde, ce qui n'est pas le cas dans l'Est de l'Inde. Et au point de vue des réformes sociales, il y a des avancées. Alors c'est un État relativement pauvre qui est agricole, mais qui depuis une quinzaine d'années bénéficie de l'argent des travailleurs, des quelques 300 000 travailleurs immigrés dans le Golfe. Immigrés kéralais, donc dans le Golfe. Alors cet État a une cinématographie qui est caractérisée par une certaine exigence, qui peut être comparée à celle du Bengale. C'est une terre vraiment de cinéastes, d'auteurs, même s'ils font aussi un cinéma commercial comme les autres régions de l'Inde. Ils ont fait 83 longs métrages cette année, rien qu'au Kerala. Ce qu'il faut signaler aussi, c'est que c'est les quatre États du Sud dont fait partie le Kerala sont les plus gros producteurs de cinéma en Inde depuis maintenant quasiment 20 ans. sur les 790 films faits cette année, il y en a 70% qui sont faits dans les quatre états dits dravidiens du sud, c'est-à-dire le Tamil Nadu, l'Andhra Pradesh.
Dravidien, ça veut dire c'est des langues dravidiennes qui n'ont pas été soumises aux indo-européens.
Les indo-européens, ce ne sont pas des langues indo-européennes.
Les indo-européens sont descendus pas jusqu'au Kerala en tous les cas.
Non, jusqu'au Tamil, à l'actuel Tamil Nadu en tout cas. Mais enfin, et le Kerala a aussi une différence peut-être avec les autres, bien que c'est la pluralité. On dit couramment qu'il y a 20% de chrétiens, ce sont des chrétiens syriaques qui sont là depuis très longtemps, qu'il y a 18% de musulmans, qu'il y a donc 65% d'hindouistes, plus au moins 45% de marxistes.
Oui, alors l'hindouisme...
C'est beaucoup plus que 100%.
oui. L'hindouisme est présent justement dans les films que vous avez vus, je crois. Enfin,
oui,
la renaissance d'un intégrisme hindouiste, c'est ça hein.
C'est-à-dire, oui, on a vu un film, c'est pas le meilleur malheureusement, j'aimerais qu'on puisse parler d'autres qui sont plus intéressants, mais qui est quand même intéressant. Il est très bien fait. C'est un film qui se situe dans ce qu'on appelle le renouveau de l'hindutva, c'est-à-dire de l'intégrisme hindouiste, ce qui est spécialement fouetté depuis les histoires d'Ayodhya, oui. Donc en 92-93. Et donc, un film très bien fait d'ailleurs, qui montre comment des parents obligent un grand-père oblige son petit garçon, son petit-fils, à devenir un sannyasi, c'est-à-dire à renoncer au monde et à devenir un brahman retiré du monde, ce qui fait qu'il est enlevé à ses parents se sont considérés comme morts par lui, etc. Enfin, c'est assez poignant, c'est dégoulinant de larmes, mais c'est très très bien fait. Mais disons, c'est quand même pas la production principale.
Alors, la production principale.
Bah, elle est dominée au Kerala par un géant qui s'appelle Ado Gopalakrishnan, d'ailleurs dont un panorama complet va être montré à Fribourg, en Suisse, dans deux semaines, au Festival Le Film. C'est le dernier géant, le dernier grand géant avec Myrna Sen au Bengale. C'est un homme qui a 55 ans à peu près, qui a fait 8 films, tous importants. Et son dernier a été présenté, a été très commenté parce que c'est une, disons, une allégorie sur 50 ans, les 50 dernières années de son état, à travers l'itinéraire d'un jeune brahman qui s'engage du côté de Gandhi, très brièvement, pour passer tout de suite aux communistes, dans sa version naxaliste. Vous savez, les naxalistes sont des révolutionnaires taxé de maoïsme, qui fomente des révoltes agraires qui continuent en Inde, en Andhra Pradesh, au Telangana, au Bihar aussi. C'est un mouvement qui ressurgit, qui attaque des postes de police, qui tue pas mal de gens aussi, il faut l'avouer. Comment ?
Il tient encore une guérilla.
Ah oui, oui, en Andhra Pradesh, là, dans l'état voisin, par exemple. Et c'est donc et qui finit par être censuré, que quand il publie son premier roman, par... ses anciens camarades politiques.
Donc ça, c'est le principal.
Ça, c'est le dernier. Oui, mais par contre, il y a une découverte dont j'espère qu'elle ira dans les festivals. Il y a deux découvertes dont j'espère qu'elles iront dans les festivals. C'est deux films de femmes, par hasard. Le premier film d'une jeune Assamaise, c'est-à-dire d'une femme qui habite au pied de l'Himalaya, dans l'état de l'Assam, qui s'appelle La Fuite. C'est un très beau film, très bien filmé, sur, au point de vue des images, c'est magnifique, sur une jeune femme. C'est situé dans les années 40. Mais en fait, le problème est toujours récurrent en Inde. Une veuve brahmane n'a pas le droit de se remarier, doit être complètement recluse, et qui décide, quand on lui fait passer une ordalie parce qu'elle a eu, elle a manqué de fauté, décide, au lieu de passer le bûcher, mais en sauvant sa vie, de mourir dans le bûcher, puisque là, on ne lui permet pas d'être une vie humaine. Et c'est très, très fort.
Alors, la place justement des femmes dans ce cinéma ? Comme réalisatrice, il y en a.
C'est difficile, comme dans tous les pays du monde, et surtout dans une société quand même très dominée. Il n'y a pas beaucoup. Il y a des femmes qui font des films, enfin, par rapport au nombre de cinéastes indiens, c'est quand même un film. Il y a surtout des grandes actrices qui arrivent à faire entendre, qui sont des véritables mythes, non pas des actrices, disons, commerciales, mais des actrices auteurs, enfin, comme Shabana Azmi, qui a permis d'ailleurs de donner un visage à un film fait par une indienne au Canada, qui s'appelle Fire, qui est extrêmement osé, puisque c'est l'histoire de deux femmes qui, délaissées par leur mari, qui en ont assez, tournent au lesbianisme d'une manière extrêmement crue, et ce qui est absolument
c'est montré en Inde, parce qu'en Inde, il y a une censure.
Ah oui, on peut dire que la nudité est interdite. Il y a d'autres moyens de la montrer.
Le baiser est interdit.
Le baiser est revenu depuis les années 80, quand même.
Bon, oui.
Mais enfin, il n'est pas aussi... il est... Le baiser est revenu.
Oui. Le baiser est revenu.
Bien, voilà. Donc, pour ce 28e Festival international du film de l'Inde qui se tenait cette année au Kerala. Alors, il nous reste 2 minutes. Vous voulez dire un mot de La Chasse aux sorcières de Nicolas Hinter? C'est d'après la pièce d'Arthur Miller, Les sorcières de Salem. Raymond Rouleau en avait fait un film avec Yves Montand, Simone Signoret, Mylène de Mongeau.
On peut rappeler que c'est la fin du 7e siècle, donc des adolescentes qui feignent d'être possédées par le démon. Ce qui est tout à fait raté, me semble-t-il, cette espèce d'hystérie qui est très réussie.
De ces adolescentes, donc, qui vont dénoncer un certain nombre de personnes. Et notamment,
en fait, c'est des puritains.
Oui, et notamment un fermier qui est très beau et qui a eu une aventure avec l'une des adolescentes, etc.
L'hystérie, c'est un raté de la religion.
Et les membres de cette communauté puritaine, qui sont dénoncés par ces jeunes filles, deviennent finalement les héros du film, seulement dans la toute fin du film. Et c'est assez bien réussi quand le film, à cause du scénario de Miller, arrive à se centrer sur ce couple de puritains, mais pour l'essentiel, c'est raté dans la mesure où on a l'impression que c'est très long.
Ce qui était la pièce de Miller à laquelle on voyait qu'à la fin.
Ce soit vraiment les héros du film.
Antoine, le rapport avec le puritanisme existe dans l'histoire, mais la chasse aux sorcières en Europe au XVIIe siècle a existé dans les mêmes conditions, avec des hystéries collectives.
En l'occurrence, la chasse aux sorcières...
La chasse aux sorcières est un...
La chasse aux sorcières est un titre français racoleur qui a été donné à ce film qui ne correspond pas à la pièce de Miller qui, elle, s'appelle Les sorcières de Salem. C'est d'autant plus scandaleux que Miller est une victime de la chasse aux sorcières.
Sous McCarthy, dont il voulait parler, et dont le film ne dit rien.
Et dans les adaptations des sorcières de Salem, il évoque le rapport entre le puritanisme et la chasse aux sorcières, ce que le film ne fait pas.
C'est assez partagé. Le canard enchaîné, malgré tout, reconnaît que c'est un petit peu long, mais qu'on aurait tort d'envoyer ce film au diable.
Oui, mais en même temps, moi je trouve que en même temps c'est l'arroseur arrosé, parce qu'on sort de ce film, on a l'impression d'avoir vu un film puritain finalement dans sa forme.
Il faut éviter de faire une association automatique entre puritanisme et hystérie et chasse aux sorcières. Puritanisme,
mais c'est pas automatique.
Autrement plus.
C'est fait comme ça dans ce film.
Mais dans la pièce de Miller, ça a un tout autre sens.
La chasse aux sorcières d'après Arthur Miller de Nicolas Hinter. C'est tout pour le cinéma aujourd'hui.
C'était le Panorama, actualité du cinéma par Jacques Duchâteau, avec Lise Andriès, Anne de Gasperi, Roger Dadoun, Guy Konopnicki, Antoine Spear et Yves Taraval pour le Festival du cinéma international de l'Inde au Kerala. Première diffusion sur France Culture le 1er mars 1997. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger sur le site franceculture.fr ou sur l'application Radio France à la rubrique des Nuits de France Culture.